Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de l'écrivaine Nathalie Reims, tirée de son dernier livre qui paraît chez Léo Cher, Les reins et les cœurs. À l'âge de 58 ans, Nathalie est rattrapée par un mal qui frappe toutes les femmes de sa famille depuis des générations. Une insuffisance rénale aiguë qui la condamne à être dialysée 3 fois par semaine jusqu'à sa mort. Elle est sauvée par son compagnon, Flavien, qui lui fait don de l'un de ses reins. Et elle est là, bien sûr. Bonjour Nathalie Reims.
Bonjour Christophe.
C'est un récit que vous publiez chez Léo Cher, littéraire. J'ai donc conservé l'écriture et la trame.
C'est bien.
J'espère que ça vous conviendra. J'ai écrit cette histoire avec l'aide de Simon Veil. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Honnêtement, je m'étais toujours voilé la face. Ma sœur n'avait cessé de m'alerter. Elle m'avait incité à surveiller les signes de cette maladie génétique qui avait touché notre mère. La menace était suspendue au-dessus de nos têtes. Nous avions vu notre mère en dialyse pendant 25 ans et ma grand-mère Alix mourir de cette maladie et sa sœur Minka s'éteindre quelques mois plus tard, terrassée par le même mal, et leur mère à elle qui était partie à 42 ans et la mère de leur mère à 45. Mais toute ma vie, je me suis raconté que je n'étais pas concerné, que je n'étais pas concerné par ce gène qui s'en prend aux femmes de ma famille. Aux femmes, hein, pas aux hommes. C'était pour moi une conviction profonde, définitive, insensée. Et puis un jour, après 58 ans à détourner le regard, je me suis cogné à cette réalité. Ça commence en août 2017, en Corse, 8 jours avant la sortie de mon 19e roman, Ma vie sans moi. Depuis quelques semaines, je m'endors épuisé. Et le matin, je me réveille avec la sensation de ne pas avoir dormi. Je suis tout le temps à bout de souffle. Je manque d'air. Et puis j'ai perdu 10 kilos en un mois. J'arrive sur le tarmac de l'aéroport pour prendre l'avion pour Paris. Je dois faire 3 pauses pour gravir la passerelle. Et là j'ai un flash. Je revois ma mère monter dans le même avion, au même endroit. Je suis comme elle. Et pourtant mon déni est plus fort que mes inquiétudes. Je me dis, c'est mon asthme. Hein, c'est mon asthme d'enfant qui revient. Un peu de Ventoline et ça ira. Le lendemain, à Paris, je réussis, je ne sais pas comment, à enregistrer une émission sur Europe 1. Et là, Léo, mon ancien mari, qui est aussi mon éditeur et avec lequel je suis resté très lié, appelle mon médecin. Quand le médecin me voit, il est stupéfait. « Tu ne vas pas bien du tout, Nathalie. » Il faut faire des analyses de sang tout de suite. La patronne du labo m'appelle, elle est affolée par les résultats. Je suis en insuffisance rénale aiguë. Pronostic vital engagé. Tous mes rendez-vous pour la promotion de mon livre sont annulés. Et l'attaché de presse.
Ah, tu sais, hein, si tu annules dans quelle étagère sur France 2, c'est pas sûr qu'il te réinvite, hein.
Pronostic vital engagé, je t'ai dit. Alors j'ai fait des recherches sur les archives de notre dynastie pour savoir d'où venait ce gène tueur en série. Je suis remonté jusqu'à son fondateur, au début du 19e siècle, et j'ai retrouvé son testament. Il y est stipulé que les hommes doivent épouser leur cousine pour que le patrimoine, la fortune, l'argent restent dans la famille. Et depuis, ce gène se transmet de femme en femme, de génération en génération. Et maintenant, je dois être hospitalisé de toute urgence. Mon médecin traitant m'attend devant l'hôpital, l'air sombre. Je le suis au 3e étage, où m'attend un autre médecin. Il me montre ma chambre, je m'assois sur le lit. Mon médecin me résume la situation. Nathalie, tu es en insuffisance rénale aiguë. Toutes tes fonctions vitales sont atteintes. Et moi, la seule chose qui me vient, c'est... Tout ce que vous voulez. mais pas de dialyse. Et là, le médecin qui va s'occuper de moi, un grand escogriffe, prend la parole. Alors, le néphrologue qui vous prendra en charge sur la durée est en congé, hein, il n'est pas encore rentré de vacances, et donc je le remplace. Donc nous allons, au moyen d'une perfusion, en quelque sorte vous remplir de sérum physiologique, dans le but de tenter de faire repartir les reins, et donc de lutter contre la déshydratation. Je ne suis pas certain que ça va fonctionner, mais c'est le seul moyen. Le brouillard s'est installé dans ma tête. On me pose ma perfusion. Je ferme les yeux. Ça fait 3 jours que je suis allongé, immobile, terrifié. Les poches d'hydratation continuent de remplir mon corps, goutte après goutte. On est fin août. Le grand échalas a été remplacé par un jeune, timide, qui parle si bas que je ne l'entends pas. Et en plus, il vient de prononcer le mot interdit. Il va falloir vous faire une dialyse. Et là, d'un coup, l'eau qui me remplit tout entière fait éclater mes veines. Un bras, l'autre, les mains, les chevilles, tout saute. Ma tête et mon corps explosent. Un brancard, un interminable couloir, une lumière. Mais éteignez-moi les lumières, les néons me brûlent les yeux. Madame, vous m'entendez? Vous êtes en réanimation. Et moi j'ai mal, je serre les poings. Je dois vous poser un cathéter. J'ai tellement mal, je suis tellement à bout, que je me mets à résister, à me braquer. Non, pas de tuyau, je vous en prie. Pas de dialyse, jamais. En vérité, aucun son ne sort de ma bouche. Mais je suis envahi par l'image de ma mère. La dialyse, elle a fait 25 ans de dialyse. Je perds connaissance. Je tombe dans le coma. Quand je me réveille le lundi, j'ai doublé de volume. Un œdème de la tête aux pieds. J'ai peur. Et autour, une fantasmagorie cauchemardesque. Il y a des nains, des géants, des qui ont des faux cols, des chapeaux haute forme, et dans ma tête, la musique de la piste aux étoiles. Ils chuchotent. Je les entends qui disent « On ne peut tout de même pas la laisser mourir une femme de 58 ans. » Oui, mais si on essaye de la sauver, qu'est-ce qu'elle va encore nous faire, celle-là? Je délire. L'œdème cérébral transforme tout autour de moi. J'aperçois mon corps quand on vient me changer. Il est difforme et je sens que l'intérieur de mes joues s'est fendu comme un ballon crevé. J'ai l'impression d'avoir été roué de coups. Qu'ai-je fait ? Ici-bas, j'ai écrit des livres. Qu'en restera-t-il? Probablement rien. Mais j'ai adoré ça. Une semaine de réanimation. Je ne sais plus quel jour on est. J'entrouvre les yeux, je cherche une passerelle, un tunnel de verre pour tenter d'apercevoir le monde dont j'ai été éjecté. Et j'assiste à des scènes que je ne peux pas comprendre puisque je n'ai plus les clés. On se dispute entre médecins. Depuis ma bulle, je me dis que je n'en ai plus pour très longtemps. Ils ont fait venir un ponte, un professeur de l'hôpital Necker. C'est lui qui s'occupe de ma sœur, Bettina. Parce qu'elle, elle se fait suivre. Elle a le même risque que moi. Des décisions sont prises. On va arrêter la dialyse, hein. Et commencer des hémofiltrations de 24 heures. Ah, donc je vais pouvoir quitter le monde parallèle et revenir sur Terre? Ce qu'on vient de commencer, ils appellent ça une filtration. Ça paraît plus paisible, plus humain, Mais ça n'est ni plus ni moins qu'une dialyse. Ils m'ont raccordé, via un cathéter au creux de mon cou, à une machine qui me filtre comme une éponge. Le sang me quitte, il passe par le rein artificiel et il revient par le même orifice dans mes veines, nettoyé, lessivé. Impossible d'imaginer cet aller-retour si on ne l'a pas subi. Et tout ça me ramène à ma mère. Les semaines se sont écoulées. 6, 7 peut-être. Et la mort n'a pas voulu de moi. Je vais bientôt quitter l'AREA et c'est une hantise. Un kiné vient parfois pour tenter de me redresser au bord du lit. Bien. Voilà. Comme ça. Bien. Mon corps ne pèse plus rien. Il ne tient plus qu'à un souffle, tout a fondu. Je ne pèse plus que 39 kilos. Mais une force me traverse de toutes parts. Le désir d'en découdre, de flinguer ce gène, d'une balle entre les deux yeux, rompre la chaîne. Ah, ça n'est pas pour rien que je n'ai pas voulu d'enfant. Rompre la chaîne. On me transfère dans une chambre normale. Changer de chambre, d'équipe, c'est compliqué. Je me laisse porter, et désormais, il n'y a pas d'autre choix. Alors, on va pratiquer 3 séances de dialyse par semaine, hein ? D'une durée de 4 heures chacune, le mardi, le jeudi et le samedi matin, d'accord ? Et là, on a 2 options. Soit on passe par une fistule sculptée dans votre bras, soit par un cathéter central implanté à la base de votre cou. C'est à vous de choisir. La fistule, ça consiste à réunir une veine à une artère. Et ça, c'est non. C'est mon impasse personnelle, trop de souvenirs violents, le bras de ma mère. Le cathéter, c'est plus risqué, ça s'infecte souvent et on ne peut pas se doucher comme on veut. Mais tant pis, je me laverai avec un gant. D'accord pour le cathéter. Il a fallu s'y prendre à 2 fois sous anesthésie générale pour me l'implanter. Mais j'ai réussi à échapper à la fistule. Après mon arrivée, j'aperçois le bout du tunnel. Je suis autorisé à retourner chez moi, à condition de revenir tous les 2 jours à 7 heures précises pour les dialyses. Et mon retour à la maison est à l'origine d'une nouvelle hantise. Croiser les regards de compassion. Alors je fuis autant que possible tous ceux qui me connaissent et qui m'ont vu avant.
Nathalie, je pensais que je pourrais venir te voir pour te tenir compagnie.
Non. Non, c'est insurmontable. Ça ne ferait que m'affaiblir. Je veux rester concentré sur mon combat. Seule ma sœur, Bettina, est la bienvenue. Même si j'ai peur pour elle, qu'en me voyant, elle attrape elle aussi la dialyse. Qu'elle soit mordue à son tour par la bête. Elle qui a si longtemps été persuadée qu'elle serait la première de nous deux à affronter cette épreuve. Je l'ai doublée. J'ai remporté la course à la maladie génétique. Dans ma vie, il y a 2 hommes. Mon mari depuis plus de 30 ans, Léo, avec lequel je suis resté très lié, rien ne peut nous séparer, on est dépendants l'un de l'autre, il est l'autre face de moi-même. Et puis il y a Flavien, que j'ai aperçu un jour danser dans un spectacle de Mylène Farmer. Il dansait sur la chanson « Point de suture ». Vivons ensemble depuis près de 10 ans. Un jour, Flavien a entendu un des médecins évoquer la possibilité d'une greffe de rein. Il a tout de suite proposé de me donner un de ses reins, comme une évidence. Et depuis, l'idée fait son chemin dans mon subconscient. Je commence à envisager une autre vie. En attendant, je poursuis mes dialyses. Celle du mardi, dont je ne commence à me remettre que le mercredi soir, il faut alors aller se coucher tôt, car pour celle du jeudi, je me lève à 5 heures du matin. Et cette séance du jeudi, dont je ne me remets que le vendredi soir, et là ça recommence, car le samedi, réveille à 5 heures. Au fond, il ne me reste qu'un seul jour de soulagement. le lundi. Et si je ne faisais plus que deux dialyses par semaine? Le lundi et le jeudi, par exemple. Ça serait le nirvana? J'en parle au médecin. Ah non, non, non. Ça serait beaucoup trop risqué. J'arrive à le convaincre d'essayer. Eh bien, deux semaines plus tard, à 3h du matin, un œdème me renvoie aux urgences. À partir de là, la perspective d'une greffe devient dans mon esprit autre chose qu'une abstraction. Ça change tout. Voilà, professeur, une personne chère à mon cœur a proposé de me donner un rein. Sur le principe, c'est envisageable. Il faut juste vérifier la compatibilité entre vous. Et quoi qu'il en soit, il faudra vous inscrire sur la liste des demandeurs d'organes, c'est la procédure. Deux jours après, je reçois un programme d'examen à passer. Mais dans ma tête, c'est le tourbillon. Recevoir un organe de l'être aimé. Mais pour moi, c'est impossible à envisager. Enfin, lui, si beau, en pleine santé, lui faire subir une telle épreuve, lui retirer un de ses deux reins pour me le transplanter. Est-ce que, sous prétexte de vivre mieux qu'en dialyse, je peux mettre sa vie en danger? Le rein est le seul organe qui peut faire l'objet d'un don par une personne vivante. Autrefois, la loi restreignait cette possibilité aux membres de la famille. Elle a été modifiée en 2011. Désormais, toute personne qui peut apporter la preuve d'un lien étroit et stable avec le receveur depuis au moins 2 ans peut devenir son donneur vivant. Le 29 janvier 2018 à 11h, nous avons rendez-vous, Flavien et moi, avec le professeur. Il me reçoit la première. J'ai un trac fou. Alors d'abord, il faut que je vous mette en garde, concernant une transplantation. Il peut y avoir des complications, des infections, et même l'apparition d'une tumeur. Ça arrive. Et puis, il vous faudra prendre à vie un traitement immunosuppresseur, anti-rejet. À vie, j'insiste. Mais est-ce que la greffe est possible? Est-ce que Flavien et moi, nous sommes compatibles? Alors maintenant, les résultats du cross-match. Ils sont négatifs. 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 Ça veut dire que la greffe n'aura pas lieu? Ouf! Ah non, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est bon. Que nos formules sanguines sont compatibles. Il nous reste à pratiquer quelques examens complémentaires. Et si tout se passe bien, on pourrait envisager la transplantation pour le printemps. Alors pour mon anniversaire? Le 25 avril? Voyons, il faudrait que ça tombe un mardi ou un mercredi. Eh bien, le 25 avril, c'est un mercredi, ça tombe bien. Je pense à Flavien, cet ange descendu du ciel. J'ai la hantise de le faire déchoir. Fin mars, deuxième rendez-vous. Le professeur va nous donner les résultats définitifs du cross-match. Nos tissus peuvent-ils se fondre dans un seul corps? Serais-je enseveli avec son organe? Une partie de lui partira-t-elle avec ma dépouille? Il n'y a rien de plus intime qu'une greffe.
Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Venez. Asseyez-vous. C'est bon. Vous êtes compatibles. Vous seriez de la même famille, ça pourrait pas être mieux. L'opération est donc programmée pour le 25 avril. Et là, Flavien doit suivre une procédure juridique très précise. Il doit d'abord passer devant un comité d'experts, et puis devant un juge du tribunal de grande instance, pour y déclarer formellement son consentement à la greffe. C'est rassurant. Et je suis frappé par sa détermination, par son calme. Parce que chez moi, c'est l'inverse. Je suis déchiré par cette échéance qui approche trop vite. Pas le temps de me forger une conviction. Le tribunal a demandé 2 témoignages de proches. Angie, qui a été témoin de notre rencontre, écrit. Il s'est immédiatement tissé entre eux une relation très forte, fusionnelle, comme celle que peuvent partager 2 âmes sœurs. Et Jérôme écrit. j'ai perçu entre Flavien et Nathalie une relation quasi gémellaire. Le mardi 24 avril, c'est la dernière dialyse. La veille du grand jour, Malika me débranche pour la dernière fois. Et moi, je ne cesse de me répéter. Et si rien ne marche? Si je pars en courant? Si l'un de nous deux flanche au dernier moment? Je suis à la fois mélancolique et pleine d'espoir. Effrayée et sereine. Fragile et forte. En sortant de la chambre, je tombe sur le médecin et les infirmières du service. J'éclate en sanglots. Avril 2018. Bon anniversaire. Hier, j'ai rejoint ma chambre aux soins intensifs et Flavien a intégré sa chambre dans le service des donneurs, juste à côté. Il m'envoie des messages, des photos. Je n'ai jamais rencontré un être aussi lumineux. Jamais. L'intervention doit durer 5 heures. Et si je mourais, là-bas sur la table d'opération? Je préfère rester sur la table d'opération qu'affronter le rejet du rein de Flavien. Ça serait un gâchis insurmontable. Je ne pourrais pas survivre. La porte de ma chambre s'ouvre. Ça n'est pas l'heure du verdict, c'est l'heure de l'exécution de ma peine. Les néons du couloir qui mènent au bloc. Bonjour madame. Vous pouvez me donner votre nom et votre date de naissance, s'il vous plaît. Nathalie Reims. 25 avril 1959. Bien. Votre donneur est endormi, madame. Et je vais vous envoyer le rejoindre dans les bras de Morphée. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Dès que vous dormirez, j'ouvrirai votre donneur. Quand j'ouvre les yeux, j'ai la sensation d'être passé sous un train. Comment va Flavien? Il est retourné dans sa chambre. Il s'est réveillé bien avant moi. On me dit qu'il m'a regardé dormir comme un prince de conte de fées. Retour dans ma chambre. Les deux opérations se sont bien passées. Il aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne. Mais une main nue est alors venue qui a pris la mienne. Louis Aragon. Mon histoire s'arrête, Nathalie Reims, sur ces vers de Louis Aragon, parce que votre livre s'arrête comme ça.
Oui.
Ils sont magnifiques, ces deux vers.
Merci. Merci aussi de votre récit, parce que c'est assez bouleversant pour moi de l'entendre d'abord lu par vous, parce que vous êtes pour moi une voix emblématique qui m'a beaucoup accompagnée. Et en fait, cette voix, je la retrouve et je trouve qu'elle n'est d'autant plus juste que ce que vous avez fait, le récit d'un jeune tueur en série, en fait. Et que les tueurs en série, vous en connaissez un bout.
Un peu. Comment ça va un an et demi plus tard? Est-ce que vous avez retrouvé une vie normale?
Oui. J'ai retrouvé une vie normale, ça a été un petit peu long parce qu'en effet, si vous voulez, il y a eu cet épisode de réanimation qui a duré quand même très longtemps, qui est entièrement de ma faute, hein, puisque comme vous l'avez si bien dit, j'étais dans un tel déni du gène que quand j'ai écrit un roman, je dis bien un roman là, sur ma mère qui s'appelle « Laissez les cendres s'envoler », où je racontais mon rapport difficile avec elle, j'avais juste omis d'écrire pendant tout le roman qu'elle avait été 25 ans dialyse, c'est-à-dire que je faisais une analyse de ce rapport, mais même là, c'est-à-dire dans sa vie à elle, je l'avais occultée. Et donc c'est vrai que ça va bien, c'est absolument miraculeux, la greffe est évidemment quelque chose de miraculeux. Le traitement est, il faut le dire, est exigeant, hein. Il faut prendre ses
médicaments. C'est contraignant, les immunodépresseurs?
Non, enfin les
suppresseurs, pardon.
Oui, enfin c'est en fait, il faut les prendre, hein, à heure fixe, bon ça c'est rien. On a tous une petite pochette surprise où il peut y avoir des petits effets secondaires, mais à côté de ce qu'on a tous traversé, c'est un tel miracle. Et puis, vous savez, justement, pour en revenir à ma mère, elle aurait pu être greffée dans les tout débuts, mais c'était la cyclosporine, c'était encore des médicaments très lourds. Et plus la recherche avance, plus évidemment les traitements sont plus faciles aujourd'hui.
Est-ce que votre relation amoureuse a changé avec Flavien du fait que vous avez un bout de lui en vous?
Eh bien, étrangement, non. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que cette relation était assez miraculeuse. Elle est tout à fait évoquée en fait dans les reins et les cœurs. Elle est assez extraordinaire parce qu'elle vient de Mylène, hein, cette rencontre
Mylène
assez
Farmer.
Voilà, inattendue. Mylène qui est pour moi comme une sœur depuis tellement d'années. Et c'était un an après le décès de Claude Berry qui a été mon compagnon pendant 10 ans. Et je n'allais pas bien, évidemment, comme tous les gens qui ont subi un deuil comme ça, très difficile. Et Mylène, dans la voiture, on allait chercher un petit blouson vert parce qu'elle devait faire un JT sur France 2. On allait chercher un petit blouson vert pour ce JT. Et tout d'un coup, elle m'a secouée. Elle m'a dit, écoute, réveille-toi. Enfin, je ne sais pas, fais quelque chose. Il y a forcément quelqu'un qui te plaît. Je lui ai dit, non, je t'assure vraiment, mais personne ne me plaît. Vraiment pas. Et elle m'a dit, mais si, je ne sais pas, dis-moi n'importe qui.
Ah si, j'ai vu un danseur dans ta troupe.
Voilà, alors je lui ai dit, ah bah tu sais, le garçon qui danse là, quand tu chantes Point de Suture, bah lui.
Elle vous le présente et
bah,
vous êtes
ça, il a fallu le trouver déjà. Et je me disais, mais t'es folle.
Alors, je suis très intéressé par le déni dans lequel vous avez vécu pendant 58 ans. C'est-à-dire que vous saviez intellectuellement que ça vous pendait au nez.
Vaguement, très très vaguement, Christophe, vraiment.
C'était même pas verbalisé.
Non, c'était pas verbalisé. J'ai pensé ensuite à ces jeunes femmes, qui, plutôt les jeunes filles d'ailleurs, qui s'allongent à 9 mois et qui accouchent sans savoir qu'elles ont été enceintes. Enfin, on sait que le déni est quelque chose de très fort. Et en fait, ce déni, je pense que pendant des années, je me suis raconté que, je ne sais pas pourquoi, ce que je raconte aussi dans le livre, c'est la réconciliation. On n'était absolument pas fâchés, mais avec cette ligne, c'est-à-dire que je m'étais raconté qu'on m'avait trouvé sur les marches d'une église, que j'étais catholique, que je n'étais...
Que vous n'étiez pas vraiment la fille de votre mère.
Non, que j'étais la fille de personne, en fait, et que tout ça ne me concernait pas. Alors que Bettina, ma sœur qui est une grande photographe, une femme merveilleuse, elle se surveillait énormément depuis 20 ans.
Mais vous n'en parliez pas.
Si, elle me disait régulièrement...
Tu devrais.
Tu devrais. Et je lui disais oui, je vais m'en occuper. Et elle savait très bien que je m'en occupais.
Par analyse génétique, on aurait pu le repérer, ce gène déficient?
Non, alors il a ce gène tueur en série, une caractéristique qui est assez formidable et assez terrifiante. C'est que bon, c'est un gène X, évidemment, que ma mère a commencé, ma grand-mère, à être soignée à Necker par le professeur Hamburger, que toute la famille a été suivie à Necker. On a vu, je crois que les professeurs, pas du monde entier, mais beaucoup se sont penchés sur notre gène. Il n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un gène...
On ne peut pas le voir, quoi.
Non, on ne le voit pas, et il agit en fait comme un alien. C'est-à-dire que vous êtes comme... Ça m'a fait beaucoup penser, vous savez, à la scène où vous êtes dans un jeu, vous savez, les miroirs sans teint, où vous cherchez la sortie, et vous ne savez jamais quand vous allez vous faire attraper dans le vaisseau. Et tout d'un coup, il surgit. Vous avez la créatinine, qui est la fonction rénale, qui se met à monter. Et il vous saisit. Alors, évidemment, si j'avais fait des analyses un an avant, on se serait aperçu qu'il commençait à monter. On m'aurait donné des médicaments, mais j'aurais gagné du temps. Mais le résultat aurait été le même.
Vous êtes certaine que cela vient de cette consanguinité voulue par votre ancêtre au XIXe siècle?
Écoutez,
qui voulait donc que les hommes épousent leurs cousines pour garder l'argent?
Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai souvent entendu dans ma famille « Vice is nice, but incest is best, because it stays in the family ». Donc bon, c'était évidemment une blague. C'est mieux de se marier parce que tout reste dans la famille. Ce qui n'était pas inhérent à la mienne, je crois que c'était vraiment des traditions
de l'époque.
Alors, je fais cette hypothèse, mais en fait, personne...
C'est une hypothèse.
Oui, c'est totalement une hypothèse. Je crois que les médecins n'ont vraiment... On a décortiqué les choses dans tous les sens. C'est vraiment... D'où l'importance, enfin, évidemment, des recherches sur le gène orphelin. Le nôtre, j'espère qu'il intéressera beaucoup de gens, mais je ne pense pas qu'on y puisse grand-chose. Sauf, évidemment, de rompre la chaîne, ce qui était quand même, évidemment, l'idée, puisque je n'ai pas d'enfant, vous l'avez dit, et j'ai compris pourquoi, pendant toutes ces années, la maternité n'était pas du tout quelque chose qui m'était venu...
C'était inconscient, ça. Ou oui, formulé comme tel.
Oui, non,
je n'aurai pas d'enfant pour ne pas avoir de fille,
non,
pour ne pas transmettre la malédiction.
Ah ben non, sinon j'aurais été face à la vérité. Non, je dis, je veux pas d'enfant.
Ouais.
Je sais pas, voilà. Et ma sœur Bettina a eu un garçon.
Mmh.
A un garçon.
Donc la malédiction est rompue.
Théoriquement.
Alors la hantise de la dialyse est quelque chose qui a dû sans doute beaucoup étonner les gens qui nous ont écoutés. C'est totalement psychanalytique en vérité.
Oui, enfin sauf pour les 3 millions d'insuffisants rénaux, hein, pour lesquels c'est une vraie réalité, parce que la dialyse, en fait, c'est comme si vous aviez rendez-vous un jour sur deux avec Dracula. C'est vraiment le prince des ténèbres, hein, cette machine. C'est-à-dire qu'en même temps, vous êtes totalement dépendant de cette machine. En même temps, ce que je raconte est vrai, et je crois que tous les gens qui sont passés ou qui sont encore dans cette dialyse savent à quel point on est absolument lessivé. Moi, j'ai vu ma mère lessivée pendant des années, et puis j'ai vu après dans les services.
On est toujours lessivé. Il n'y a pas moyen d'y avoir de routine avec ça.
Ben, je pense que peut-être, si on est plus jeune, on le supporte mieux, mais en même temps, c'est totalement anormal. Vous passez 4 heures, Christophe, 4 heures un jour sur deux dans une machine qui vous maintient en vie. Il y a évidemment le livre, il y a évidemment cette extraordinaire aventure qui est une aventure avant tout de vie. Hein. C'est ça que... Parce que toutes ces aventures sont des aventures de vie pour chacun d'entre nous. C'est des combats. Mais je pense qu'il est extrêmement important que les choses se poursuivent, que la recherche avance et surtout qu'on parle du don. Parce qu'il y a évidemment le don du donneur vivant qui est un geste extraordinaire. Enfin, c'est absolument... inimaginable, quelqu'un qui vous donne un organe. Mais il faut aussi penser à toutes ces familles qui apprennent en même temps le décès d'un proche et à qui on demande 10 minutes après s'ils sont d'accord qu'on prenne les organes de la personne qui leur est chère.
Est-ce que c'est posé la question d'un donneur externe? Non, parce que les listes d'attente...
Mais non, en fait, ça ne s'est pas posé. Alors, les listes d'attente, évidemment, ils vous inscrivent sur une liste tout de suite, hein. Dès que vous êtes déficient d'un organe, enfin que vous avez besoin d'un organe, vous êtes inscrit sur une liste où ensuite, bon, il y a un problème de groupe sanguin, il y a un problème d'attente. Mais enfin, dans la dialyse, c'est assez rarement une question d'enjeu, si ce n'est d'épuisement avec les années, c'est sûr. Mais comme au bout de 2 jours, en fait, en réanimation, Léo Cher était là, il était là tout le temps, et Flavien lui a dit spontanément, et il lui a dit « je veux lui donner un rein ». Mais moi, c'était même pas, enfin, j'étais totalement pas là. Et il m'a fallu évidemment un temps fou et son amour et sa confiance et finalement presque sa colère de me voir hésiter et ne pas pouvoir accepter parce que c'est terrible. Et puis après, il y a les examens, la compatibilité, il y a beaucoup de choses.
Mais quelle probabilité justement il y a que vous soyez compatibles tous les deux? C'est-à-dire quelqu'un qui a ce geste généreux, quelle probabilité il y a que ça marche?
Alors, si le professeur Legendre à Necker vous dit, vous allez aller au bloc avec votre donneur, c'est que je pense qu'il a une
vague idée. Il a eu un doute, il s'est dit, mais il y a zéro chance qu'il soit compatible. Non,
non. Pas du tout. D'ailleurs, il ne dit jamais ce genre de choses. Il m'a juste dit, c'est la coordinatrice de greffe qui m'a dit, je vous prenais 4 kilos parce qu'on ne veut pas vous perdre sur la table. Mais en fait, ce n'était pas du tout une histoire de rein. Il savait qu'on était compatibles, mais il fallait, enfin, j'étais pas en super état, quoi. Donc il fallait que ça marche.
Le coup de l'anniversaire, ça peut passer pour un caprice.
Non, en fait, c'était
enfin,
juste
moi qui n'accorde aucune importance à mon anniversaire, ça me paraît...
Eh bien, moi non plus. Et c'est ça qui est drôle. Je n'ai jamais de ma vie, depuis l'âge de 7 ans, fêté un anniversaire. Il ne faut pas me le souhaiter parce que je déteste ça. J'ai jamais fait une... De toute façon, je déteste les soirées, les trucs comme ça. J'ai jamais fait un dîner d'anniversaire depuis que je suis grande. Eh bien, tout d'un coup, c'était comme un défi lancé au destin. Parce que je ne savais pas quoi dire et que je me suis dit, je ne sais pas, c'est sorti comme ça. Parce que si on a un cadeau à recevoir dans sa vie, j'espère que évidemment, c'est rare, mais je sais que ce n'est pas si rare que ça. C'est évidemment un organe, quand on en a besoin.
Il y a quelque chose qui est assez vertigineux, c'est quand vous écrivez, je l'ai repris, une partie de lui finira avec ma dépouille.
Oui, mais c'est vrai parce que je n'ai cessé d'y penser. C'est-à-dire qu'une part de lui repose en moi et c'est sans doute ce qui m'a donné la force d'y aller, la force de lutter, la force de me battre, la force d'être ici, la force d'écrire ensuite, parce que c'était une sorte de stèle que je voulais en même temps ériger pour lui, pour tous les donneurs vivants, pour tous les donneurs dont les familles ont fait ce geste. Il était très important de lui rendre cet hommage et de rendre hommage aux donneurs du monde entier.
Voilà. C'est amusant parce que ça rejoint la conception d'un enfant, c'est-à-dire que vous avez fabriqué une fusion.
Mais c'est drôle parce que c'est incroyable ce que vous dites, Christophe, parce que je dis souvent, le soir comme ça, je me dis je suis enceinte d'un rein. C'est tellement bizarre.
je
vous aurais jamais dit cette phrase.
Ouais.
Mais puisque Vous m'en parlez. Oui, c'est ça. Je suis enceinte d'un rein. Je suis enceinte de Flavien, mais d'un rein.
Vous en parlez ?
Très peu, parce que c'est un être extrêmement pudique qui ne veut pas parler. Il a été pas mal sollicité. Là, il n'ouvrira pas la bouche. C'est quelqu'un de qui a la grâce. Enfin, voilà, on n'en parle pas. De temps en temps, comme ça, le portable sonne parce que c'est l'heure des médocs. Non, on n'en a pas beaucoup parlé avant. Moi, j'en ai beaucoup parlé. Et je continue à lui dire, mais je ne sais pas, il y a une telle grâce, il y a une telle façon naturelle d'avoir fait les choses.
Parce qu'il y a les cicatrices, je suppose, qui rappellent.
Oui, il y a les cicatrices, ben il y a ces points de suture. Alors là, si vous voulez, c'est là où le conte de fées, le conte de Grimm, c'est-à-dire que je choisis quand même ce garçon sur une chanson qui s'appelle Point de suture. Et pour mon livre, il y a... d'il y a 6 ans, qui s'appelle « Car ceci est mon sang », qui est un roman qui se passe sur les cathares, sur l'arrivée d'un ange, qui est-ce qui est en couverture ? Flavien. Donc en fait, il y a point de suture, j'écris « Car ceci est mon sang », je mets Flavien en couverture, et des années après, il va me donner un rein. Alors après...
Vous êtes médium !
Mais non, mais je crois que c'est la synchronicité, et que dans toutes nos histoires, si on y réfléchit... Il faut, vous savez quoi, c'est une histoire d'intuition, c'est les rencontres, c'est la vie.
Très beau livre à lire, bien entendu, pour compléter ce récit qui ne raconte qu'une toute petite partie des choses. Je le dis à chaque fois pour ne pas dissuader les gens de lire les livres, parce qu'évidemment l'écoute est plus facile, moins exigeante, mais lire c'est aller encore plus loin.
Merci.
Ce livre s'appelle « Les reins et les cœurs », il est écrit par Nathalie Reims, il est édité chez Léo Cher, votre mari.
mon âme sœur, voilà, j'ai de la chance, je suis très bien entourée.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.